Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Salut, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur dans le même CIUS.
Comment ça va?
Bien, toi?
Popé, M. Massé.
Ben, très heureux de rediscuter d'hypothyroïdie.
Ah ouais, à ce point-là? Hein?
Ouais, s'il y avait un petit sarcasme dans ma voix, là.
Aïe. Fait qu'on est effectivement de retour pour ce deuxième épisode d'une série de deux sur l'hypothyroïdie. Le premier épisode, hein, qui, je pense, nous a laissé sur notre faim. On se rappelle, bon, il y avait tout le côté investigation, présentation clinique. Ça, je pense que ça allait relativement bien. C'est assez clair, assez simple à suivre, là, si on sait de quoi on parle. C'est la partie gestion du résultat de bilan, la partie traitement du résultat de bilan. Là, ça se complique beaucoup. Fait que, je vous rappelle, pas une grosse science sur rien de tout ça. Premièrement, les bilans ont une très, très grande variabilité. Fait que... être capable de déterminer un changement là, en deux TSH, c'est probablement pas si évident que ça, avec une variabilité attendue qui va jusqu'à 40 à 50 en deux valeurs de TSH qui sont en fait les mêmes. Des cibles de TSH qui sont pas tellement claires parce que, bon, on cible les valeurs dites normales. Les valeurs dites normales, ben, c'est la fameuse distribution normale quand on teste des TSH chez un paquet de personnes jeunes et en santé. Si t'es trop loin de la moyenne, t'es considéré comme anormal et malade, ce qui est somme toute un peu bizarre parce qu'il n'y a pas une corrélation parfaite, clairement, entre les valeurs de TSH et les valeurs de T4. Puis au final, ben, c'est probablement plus les valeurs de T4 et ultimement aussi de T3 qui devrait nous intéresser, parce que la TSH en soi a un rôle plutôt limité. Fait que ça se garde. Puis là, ben après, en termes de traitement, bon, on utilise typiquement de la T4, hein, de la lévothyroxine. On avait fait le tour sur les enjeux plus techniques de ce produit-là. On n'a pas ou peu d'études randomisées, contrôlées, minimalement utiles sur que c'est que ça fait de donner de la lévothyroxine à des êtres humains là, qui semblent en manquer. C'est une pratique qui est très vieille, qui remonte à il y a de cela des tonnes de décennies, puis on roule, bon, sur cette pratique historique-là depuis. En même temps, ça fait du sens. Dans une balance risque-bénéfice de la science disponible, I guess que ça reste censé de donner de la lévothyroxine puis d'essayer de traiter ces gens-là, mais tout ça ne tient que par une science, ma foi, là, très fragile.
Mais rassure-nous, Nico, dis-nous que ça va s'améliorer dans cet épisode-ci.
mais honnêtement, un petit peu. Regardez, on va partir ça en force. On va partir ça avec l'hypothyroïdie subclinique. OK? Puis mine de rien, en hypothyroïdie subclinique, on a des essais randomisés contrôlés d'envergure, là.
Oui, il y a de la bonne science.
C'est pas pire. Fait que bon, petit rappel, l'hypothyroïdie subclinique, hein, c'est quoi? C'est donc une valeur de TSH qui est dite anormale, donc qui est supérieure aux valeurs dites normales, mais avec une valeur de T4 qui, elle, reste normale. Hypothyroïdie subclinique. Ça va. Fait que là, il y a des gens qui ont commencé à se demander à un moment donné, OK, mais on fait quoi avec ces gens-là? On les traite-tu? On les traite-tu pas? Non. Première étape, probablement reconfirmer le résultat de TSH dans un délai là, à déterminer. Sinon, ben, on traite-tu, on traite-tu pas? La première affaire, c'est que dans des études observationnelles, la présence d'hypothyroïdie subclinique a été associée dans certaines études à une hausse d'un paquet de trucs, comme par exemple les événements cardiovasculaires. En même temps, c'est bon, c'est des données observationnelles. Il y a même des données observationnelles qui vont dans l'autre sens. Là, je sais pas si tu as déjà vu ça, lié en gériatrie. Là, j'ai trouvé des... On s'entend, là, ça se veut ludique. Là, des études observationnelles qui suggéraient que les gens âgés avec une hypothyroïdie subclinique se déplaçaient plus rapidement.
Ça, j'ai jamais vu ça, mais good.
Je sais pas trop quoi faire, on dirait, de ces informations-là, mais ça m'a fait sourire. Après ça, il y a tout le confondant, là, tu sais, je sais pas, moi, là, Amé, tu parlais dans le premier épisode, par exemple, du lien entre la dyslipidémie, notamment, et l'hypothyroïdie, fait que là, il y a du concept de poule ou l'œuf, là, aussi, j'imagine, là-dedans. La TSH peut aussi être influencée par le poids des patients. Ils ont tendance à avoir des TSH plus élevés, les patients avec des surpoids. Fait que Je suis pas sûr que juste sur cette base-là, là, ça mérite de se dire, ah, parfait, il faut donc traiter nos patients avec une hypothyroïdie subclinique. Puis là, ben, on est chanceux, il y a des gens qui ont décidé de tester ce concept-là dans des études randomisées contrôlées. Méta-analyse, là, il y en a quelques-unes, il y a une revue Cochrane même sur le sujet, puis tout ça, qui montre un peu toute la même affaire, là, c'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des études, ça semble pas donner grand-chose de traiter l'hypothyroïdie subclinique. C'est sûr que, bon, la plupart de ces études-là, c'est des petites études. La plupart de ces études-là, ça implique des patients avec des TSH qui sont pas très élevés non plus. En même temps, bon, j'imagine que c'est difficile de trouver des patients avec une hypothyroïdie subclinique puis une TSH bien élevée, parce qu'à un certain moment, on présume que ça va se transformer en hypothyroïdie clinique, là. Il y a quand même une corrélation, évidemment, entre l'un et l'autre. Fait que bref, pas grand-chose. Si on regarde la plus grosse étude sur le sujet, c'est l'étude TRUST qui est sortie dans le New England en 2017, hein, fait qu'une science quand même assez récente. 737 adultes de 65 ans ou plus avec une hypothyroïdie subclinique persistante, randomisée à de la lévothyroxine ou à un placebo pendant un an. Puis au final, ça n'a rien changé. En même temps, le petit bémol quand même que je viens de mentionner, c'est des TSH qui sont typiquement pas super élevés, là. La TSH de base médiane dans cette étude-là, c'était 6,4. Fait que c'est sûr que c'est pas très élevé, mais comme je dis, je vois mal comment tu pourrais réussir à faire une étude d'hypothyroïdie subclinique avec des patients avec des TSH en moyenne à 18, là, parce que imagine, ça court pas les rues. Fait que la morale de l'histoire en 2026, c'est que la science disponible suggère pas de traiter avec la lévothyroxine la majorité des patients qui ont une hypothyroïdie dite subclinique. Après ça, il y a des gens qui ont déterminé une espèce de seuil un peu arbitraire qui corrèle quand même avec certaines des petites études là, qui ont été faites puis qui sont à prendre avec beaucoup de grains de sel puis qui montrent surtout des améliorations sur des marqueurs intermédiaires comme justement des bilans lipidiques. Mais bref, un seuil souvent mentionné de 10. Fait que pour une TSH supérieure à 10, on pourrait, basé sur pas grand-chose, considérer de traiter tout de même avec la lévothyroxine. J'ai bien de la misère à justifier des arguments, bien de la misère à identifier des arguments pour ou contre ce genre de recommandation-là.
Puis en même temps, tu sais, si tu as une hypothyroïdie subclinique avec une TSH inférieure à 10, tu es pas mal certain avec la science disponible qu'il y a très peu de bénéfices à le traiter. En haut de 10, on le sait pas.
Exact. Puis là, ben, au-delà de l'hypothyroïdie subclinique par rapport à l'hypothyroïdie clinique, il faut aussi rentrer dans tout ça le concept d'âge, n'est-ce pas, Oli?
Ouais. Il y a quand même certains enjeux intéressants à discuter pour la gériatrie, là. Dans le premier épisode, Nico, tu nous as parlé du fait que les valeurs de référence de TSH se basent sur des courbes de distribution puis des percentiles.
Ouais.
Puis on remarque dans une population sans hypothyroïdie, on a une TSH médiane autour de 1,5, puis 95% des patients ont une TSH entre 0,45 et 4,1, 4,2, ce qui donne pas mal nos valeurs normales de laboratoire.
Exact.
Quand on regarde la TSH médiane par sous-groupe d'âge, il y a clairement un phénomène d'augmentation de la TSH, puis sa limite normale supérieure augmente aussi, là. Puis c'est surtout à partir de 60 ans qu'on remarque qu'il y a vraiment une augmentation physiologique de la TSH. Puis pour prendre un petit exemple, par exemple, chez les 80 ans et plus, on a entre 10 et 15% des patients sans hypothyroïdie qui vont avoir une TSH supérieure à 4,5. Donc, ils vont avoir une hypothyroïdie subclinique, contre 2% chez des patients plus jeunes. Donc, il y a vraiment une élévation très claire de la TSH à travers les années, puis c'est particulièrement marqué chez nos patients âgés.
Mais là, évidemment, ça ne règle pas la question, parce que comme nos cibles, comme notre distribution, tout ça est basé sur pas grand-chose, ça veut dire que donc faut plus traiter les personnes âgées, ça veut-tu dire qu'il faut accepter le fait que leurs TSH sont normalement plus élevés puis que c'est correct? Ou...
Ouais. Puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'ATA, l'American Thyroid Association, reconnaît, eux autres, dans leur ligne directrice de 2017, que les intervalles normaux de TSH sont plus élevés dans la population gériatrique et donc que des cibles de TSH plus élevées pourraient être appropriées chez les patients plus âgés avec un diagnostic d'hypothyroïdie. En pratique, ce n'est pas recommandé de viser absolument le haut de l'intervalle normal d'ATSH. Ce n'est pas recommandé non plus de viser précisément entre 4 et 6 de TSH. Là, il y a cette cible-là de gériatrique qui est souvent véhiculée dans des références, là, le 4 à 6. Je ne sais pas vraiment ça sort de où, là. De un, c'est quasiment impossible de viser un petit intervalle, là, de TSH, surtout chez des patients âgés. Puis on l'a expliqué au premier épisode, la TSH, ça varie quand même beaucoup d'une mesure à l'autre, là. Donc, si on vise entre 4 et 6 de TSH, on va constamment faire des ajustements. Puis, tu sais, de deux, on n'a absolument aucun bénéfice à modifier une dose de lévothyroxine si on est dans l'intervalle dit normal puis que notre traitement est bien toléré, là. On s'entend? Il n'y a pas de science de moindrement bonne qualité qui peut nous démontrer ça. Faut reconnaître, par contre, comme l'ATA, que t'sais, c'est tout à fait acceptable d'être moins agressif en gériatrie. On peut tolérer des TSH plus élevés sous traitement, des TSH de 5, 6, 7, 8, dépendamment de l'âge de nos patients, là, en autant évidemment que les patients soient asymptomatiques. Donc, on ne vise pas nécessairement une TSH plus élevée, mais on peut se permettre d'être un petit peu plus libéral si finalement notre TSH est naturellement plus élevé chez nos patients. Puis, sans s'embarquer dans des gros ajustements de dose d'emblée dès qu'on voit une TSH qui dépasse le fameux 4,5, là.
Mais, tu sais, je pense que c'est important quand même de rappeler ça parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup véhiculé ces dernières années, là. Je sais pas si c'est juste moi, mais l'idée de cibler vraiment des valeurs de TSH différentes chez la personne âgée, fait que mettons le fameux 4 à 6, qu'on se comprenne bien, là, ça ne vient que d'un seul unique endroit, du fait que si tu fais une courbe de distribution normale chez la personne âgée, ça se déplace un peu vers la droite, là. Mais c'est basé sur aucune étude clinique qui démontre qu'on aide plus ou on aide moins des personnes âgées en ciblant ce genre de chiffre-là, là. Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que ça amène des gens à surréagir. Fait que, mettons, tu fais un contrôle de TSH, une personne âgée sur lévothyroxine sort une TSH à, je sais pas, moins 1,8. La personne va bien, se porte bien, ben, je suis pas sûr qu'on a une raison démontrée d'ajuster son traitement, là.
Non, non.
Parfait.
Par contre, tu sais, je pense quand même un bon réflexe de rechercher un petit peu plus prudemment des signes potentiels d'excès d'hormones thyroïdiennes chez les patients âgés qui ont des TSH basses sans qu'elles soient, tu sais, entièrement supprimées. Puis là, il n'y a pas de seuil clairement établi à partir duquel il faudrait être plus vigilant, mais la majorité des guides de pratique, tu sais, vont rapporter que les patients plus âgés seraient plus à risque d'effets indésirables du surtraitement de l'hypothyroïdie, là. Cette idée-là est basée essentiellement sur des études observationnelles. Je ne veux pas qu'on rentre dans le détail de tout ça, là. Il y a plein de limites, mais ça nous faudrait juste se rappeler quand même qu'il faut être un petit peu plus prudent si on constate des TSH très basses chez nos patients plus âgés. Les patients âgés pourraient être un petit peu plus sensibles si on leur donne trop de lévothyroxine.
Parfait. Y avait-il autre chose qu'on voulait dire sur la gestion de l'hypothyroïdie en gériatrie?
Ouais, donc si on fait un mini résumé rapide, là, donc faut penser à réévaluer les besoins en lévothyroxine chez nos patients plus âgés. On parlait tantôt de variation de poids, là, mais avec le vieillissement, on a beaucoup, beaucoup de patients qui perdent du poids. Donc, faut penser à réévaluer nos doses avec le temps. Faut penser à adapter notre type de TSH. On peut se permettre d'être moins agressif de temps en temps si le tableau clinique nous le permet. On peut aussi être un petit peu plus prudent lorsqu'on a des TSH très basses en questionnant les symptômes potentiels d'un surtraitement avec notre lévothyroxine. Puis on se rappelle, là, on en a parlé au premier épisode, là, mais qu'on ajuste avec prudence la lévothyroxine chez les patients âgés peuvent être un petit peu plus sensibles aux effets de cette hormone-là.
Ça me semble clair.
Petit résumé rapide.
Excellent. Prochaine population spéciale qu'on voulait adresser, un autre gros morceau, la femme enceinte.
Oui, fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte au niveau de la fonction thyroïdienne? Ça change principalement sous l'effet de deux hormones, le bêta-HCG puis l'estrogène. Le bêta-HCG, lui, il va être un stimulant faible des récepteurs de la thyroïde, ce qui fait qu'en début de grossesse, la valeur de TSH va baisser considérablement pendant le premier trimestre, puis après ça, va tendre à se normaliser vers le deuxième puis le troisième trimestre. Après ça, l'estrogène va augmenter la thyroxine binding globulin, fait que la TBG. Ça va donc faire en sorte qu'il va avoir une plus grande partie de thyroxine qui va être liée, et donc ça va diminuer la quantité de T4 libre qui est disponible. Donc c'est un peu ça la physiologie là, en grossesse. La cause la plus fréquente d'hypothyroïdie dans notre société canadienne, ça reste encore la thyroïdite d'Hashimoto. Ce qu'on sait, c'est que l'hypothyroïdie qui est pas traitée en grossesse, ça peut être associé à plusieurs complications. On sait que ça augmente le risque de naissance préterme, de perte fœtale, de mort in utero, d'anémie maternelle, de prééclampsie, d'autres anomalies placentaires également. Par contre, ces complications-là sont généralement observées chez les patientes qui ont des hypothyroïdies qui sont sévères. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'hypothyroïdie sévère qui n'est pas traitée chez la mère peut avoir des répercussions importantes sur le développement neurocognitif du cerveau du fœtus, parce que pendant le premier trimestre, là, généralement jusqu'à la 12e semaine de grossesse, la thyroïde du fœtus ne fonctionne pas encore et pas capable encore de synthétiser les hormones, donc le fœtus dépend entièrement de la T4 libre qui passe via le placenta de la mère vers le fœtus. Donc, c'est pour ça que ça peut avoir des répercussions. Puis, on sait que c'est des répercussions qui sont irréversibles si c'est pas traité et qu'on a une hypothyroïdie qui est sévère.
OK, mais là, bon, ça, on dirait que ça amène quelques questions, ce que tu me dis là. La première, est-ce que ces chances-là, on devrait donc dépister de façon universelle l'hypothyroïdie chez la femme enceinte?
Ha! Question piège.
OK.
Ben, actuellement, les recommandations sont qu'on ne devrait pas faire un dépistage universel d'hypothyroïdie chez les femmes enceintes. Et pourtant, en clinique, c'est souvent quelque chose qu'on voit qui est fait.
En fait, sur le dépistage universel, tu sais, comme Amé, tu disais, là, les recommandations vont généralement en défaveur d'un dépistage universel. L'ACOG, l'Association des obstétriciens américains, se positionne contre en disant que les études de dépistage et le traitement de l'hypothyroïdie subclinique pendant la grossesse n'ont pas démontré de bénéfice. Donc là, on reviendra sur le traitement de l'hypothyroïdie subclinique bientôt. Mais sur la question du dépistage, on a quand même de la science, là. Il y a plusieurs études randomisées contrôlées qui ont été publiées sur le sujet. Notamment, on a une étude randomisée contrôlée de 4 500 participantes.
Ah, enfin, ça fait du bien.
Ouais, quand même, hein? J'étais agréablement surpris quand j'ai vu ça. Donc, dans cette étude-là, on randomisait les femmes, soit un dépistage universel de TSH au premier trimestre, contre un dépistage ciblé. Dans le groupe dépistage ciblé, ce qu'on faisait, en fait, on procédait à des ponctions veineuses au premier trimestre pour toutes les femmes, mais on testait les échantillons à la fin de la grossesse seulement, pour pas que les cliniciens obtiennent le résultat. Puis dans ce groupe-là, évidemment, on pouvait aussi dépister si on avait des suspicions d'hypothyroïdie. Donc, c'était permis si le clinicien considérait que c'était cliniquement indiqué. L'intervention comprenait aussi l'administration de lévothyroxine chez les femmes qui présentaient une TSH supérieure à 2,5 avec des anticorps anti-TPO positifs. On va revenir aussi bientôt sur toutes les enjeux de cible et de valeur normale de TSH. Donc ici, c'était vraiment une TSH supérieure à 2,5, des anticorps anti-TPO positifs. Puis, on traitait aussi avec un traitement antithyroïdien les femmes chez qui on testait une TSH indétectable avec une T4 élevée.
Puis, ça a-tu changé quelque chose?
Bien, premièrement, on a juste détecté environ 3% d'hypothyroïdie dans le groupe dépistage universel, donc quand même pas beaucoup. C'était surtout des cas d'hypothyroïdie subclinique qui ont, je le rappelle, qui ont été traités avec de la lévothyroxine. Puis malheureusement, on n'a pas remarqué de différence entre les deux groupes pour toutes les issues de sécurité maternelle et néonatale.
Ouais, fait, en tout cas, une science, c'est quand même pas mal plus solide que bien des affaires dont on a jasé à date en hypothyroïdie. Qui semble suggérer que le dépistage universel, fait qu'on se rappelle dépistage égal patient qui n'appelle pas là, un besoin de bilanter sa TSH, fait qu'il n'y a aucun symptôme ou signe de suggérant quoi que ce soit, ça semble pas donner grand-chose. Puis sur cette science-là, ce que vous nous dites, c'est que la COG ne recommande pas le dépistage.
Exact.
On dirait qu'en pratique, c'est plus nuancé, hein? OK. Fait que là, mettons qu'on reçoit un bilan, que ce soit parce qu'on a décidé de dépister là, universellement ou parce qu'on avait un signe ou symptôme là, qui laissait croire à quelque chose, puis on a fait un bilan. On l'interprète-tu différemment pour poser un diagnostic ou?
Bien, en fait, une des difficultés qu'on rencontre pour le traitement des femmes enceintes, justement, c'est définir les valeurs de référence, puis par conséquent, la cible de TSH à viser sous traitement, parce que la cible dépend, Évidemment, comme tu nous l'expliquais, Nico, tu sais, ça dépend des valeurs de référence. La majorité des guides de pratique, ce qu'ils vont recommander, c'est que les valeurs de référence soient ajustées à chaque trimestre en fonction des valeurs moyennes de la population locale. Mais en pratique, on n'a pas vraiment accès aux données locales, puis on utilise souvent la plage de référence dite normale de 0,1 à 4. Donc, une TSH un petit peu plus basse que ce qu'on remarque dans la population générale. Puis lorsqu'on parle de cible ou de diagnostic, ben là, pour le diagnostic, ça varie beaucoup d'un guide de pratique à l'autre, là, mais une fois qu'on a décidé de traiter avec la lévothyroxine, ce qui revient souvent, c'est une cible de TSH qui est généralement de moins de 2,5, surtout au premier trimestre. Là, après, ça peut varier selon les trimestres. Il y a d'autres guides de pratique qui nous disent, qui ne nous donnent pas de cible claire avec un chiffre clair, mais qui nous disent qu'on devrait viser le bas de l'intervalle normal. Puis bon, vous allez être un peu déçus, mais j'ai pas trouvé de science de moindrement bonne qualité ici, là. Ça semble surtout basé sur le fait que les femmes enceintes ont naturellement une TSH plus basse, donc on devrait diagnostiquer plus rapidement l'hypothyroïdie et avoir une cible aussi plus agressive chez ces patientes-là.
Mais tu sais, physiologiquement, ça fait du sens. Parce que comme on sait qu'il y a plus de protéines qui, t'sais, qui bindent la T4 libre, donc il y a moins de T4 libre, donc il faut en donner plus pour finalement arriver à des niveaux normaux là, de T4 libre disponibles pour que ça puisse faire sa job, là. Donc ça fait du sens.
Ben, d'un point de vue physiologique, c'est juste qu'après, on n'a pas de
C'est ça.
bonne science qui nous démontre que faire ça va changer le devenir clinique de nos patients.
OK. Fait que là, pour une patiente qu'on décide de traiter, bon, on a parlé déjà dans le premier épisode des doses de départ puis tout ça, mais je présume que ça fait du sens aussi d'être probablement dans le côté plus agressif ou rapide de la dose du fameux là, 1 point. Bon, ça se promène un peu, là, mettons 1,6 microgrammes par kilo par jour, parce que clairement, si tu pars à 12,5 puis que tu ajustes aux 8 semaines par shot de 12,5, 25, là, la dite femme enceinte, à un moment donné, elle sera plus enceinte puis tu seras toujours pas là.
Bien, en effet, surtout tu sais, si la TSH est très élevée, puis là, Amé nous parlait des risques associés à une hypothyroïdie tu sais, clinique non traitée, surtout sévère. En effet, c'est sûr que si on s'embarque avec une dose de départ très faible, bien, on va atteindre notre cible quand notre patiente ne sera plus enceinte.
Ça.
Donc, on va avoir un peu manqué le bateau. Donc, oui, ça s'applique encore.
OK. Puis là, ben, l'autre scénario, c'est d'avoir une patiente qui est déjà connue et traitée pour une hypothyroïdie, qui reçoit déjà de la lévothyroxine et qui tombe enceinte.
Oui. Donc là, il y a plusieurs façons de gérer ce cas-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu la même chose que moi, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de cliniciens qui vont augmenter dès le début de la grossesse de 20 à 30 % la dose de lévothyroxine, là. Puis typiquement, les cliniciens vont prescrire la même dose de lévothyroxine à la même dose, là, donc à prendre un comprimé une fois par jour du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, ils augmentent à 2 comprimés une fois par jour, ce qui revient à une augmentation environ de l'ordre du 20 à 30 %. Qui est quand même fait pas mal en pratique comme méthode d'ajustement, tu sais, préemptive dès le début de la grossesse.
Ben, c'est sûr, c'est simple, je présume.
Oui, puis ça répond justement aux besoins en hormones thyroïdiennes qui sont augmentés, au fait que tu vas falloir probablement ajuster la dose. T'sais, ça, d'un point de vue physiologique, ça fait du sens. Par contre, il y a des guides de pratique qui proposent aussi de garder la même dose en faisant des suivis puis des ajustements si besoin. Ça serait pas nécessairement une mauvaise conduite de juste attendre puis faire des contrôles de TSH. Ici, j'ai pas trouvé de bonne science sur les différentes stratégies d'ajustement puis de prise en charge. Je pense que l'important, c'est moins la stratégie adoptée, mais plus le suivi qui va avec notre décision, là. Il va falloir faire un suivi de TSH. Puis parlant de suivi, encore une fois, pas de bonne science sur la fréquence idéale de suivi, mais il y a beaucoup de guides de pratique qui proposent de suivre la TSH toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à 20 semaines de grossesse, puis au moins une fois à 30 semaines. Là, dans la majorité des cas, c'est recommandé de suivre un peu plus intensivement la TSH.
On dirait que tu as vraiment tout donné tantôt, hein, sur la bonne science, finalement, avec ton étude randomisée contrôlée de 4 500 participantes, là. Il n'en restait plus pour les autres, là, hein, c'est ça? Aïe,
Ben,
aïe,
quand on
aïe.
parlera d'hypothyroïdie subclinique pendant la grossesse, il y a quand même un peu de science, mais c'est ça. Ouais.
OK, ben on peut aller là, là. Fait que si je résume, pour la femme enceinte, le dépistage universel, la science semble pas vraiment démontrer le bénéfice de ça. Après ça, ben, le dépistage de patientes ou l'investigation là, chez des patientes qui présentent une quelconque suspicion clinique du poturédis, certainement à mettre de l'avant. La patiente avec une hypothyroïdie clinique, ben, OK, le traitement, probablement partir à une dose minimalement élevée d'emblée pour pas que ça s'étire sur 3 éternités. La cible de traitement, on dirait que vous avez retenu que c'était vraiment pas si clair que ça, mais une espèce d'idée de se tenir plus dans la zone agressive de traitement, avec une TSH plus dans la moitié basse de l'intervalle normal. Puis pour la patiente qui est déjà connue hypothyroïdienne, déjà sur levothyroxine, qui tombe enceinte, qui a la fameuse idée d'augmenter d'emblée la dose, de par exemple rajouter 2 comprimés supplémentaires de la dose habituelle par semaine pour répondre aux besoins physiologiques attendus durant la grossesse. Ça
C'est un beau
résume-tu pas
résumé.
bien?
C'est un beau résumé.
Et que là, tu nous dis qu'il y a de la science pour l'hypothyroïdie subclinique chez la femme enceinte.
Ouais, on a notamment une revue systématique qui a été publiée en 2024. Les auteurs ont inclus 8 études randomisées contrôlées de lévothyroxine contre placebo pour un total de 2622 participants. Quand même.
Wow! Pas pire, pas pire, pas pire.
Ben, j'ai été agréablement surpris. Pour ça, bon. Ici, c'est important de préciser qu'on incluait dans les études surtout des femmes avec une TSH entre 3 et 10. Donc, les résultats, encore une fois, s'appliquent pas vraiment à des patientes qui présentent une TSH super élevée, par exemple une TSH supérieure à 10. C'était des patientes peu incluses dans les études. En termes de résultats, on n'a pas vu de différence entre les groupes sur les naissances vivantes, sur les avortements spontanés, puis sur les naissances prématurées. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est dans une analyse portant sur un sous-groupe d'une étude randomisée contrôlée qui incluait 267 femmes avec des enjeux d'avortement spontané. On constatait dans cette étude-là une diminution de 55% du nombre d'avortements spontanés. On avait 21% d'événements sous lévothyroxine contre 40% sous placebo, ce qui donnerait un NNT de 5.
Ce qui, évidemment, là, on se dirait, wow, c'est bon, c'est impressionnant, mais de l'autre côté, on se dirait, mais juste dans une analyse de sous-groupe de une de ces nombreuses études.
C'est ça. Donc, il y a peut-être un petit signal ici, mais c'est à analyser avec une très grande prudence.
En même temps, bon, dans une balance risque-bénéfice, où on inclut aussi les coûts, par exemple, de l'affaire, j'en comprends que chez une patiente avec des antécédents d'avortement spontané, qui se tient dans une zone plus grise, probablement, c'est à considérer.
Ben, je pense que ça serait raisonnable qu'elle réfléchisse à prendre de la lévothyroxine. Sinon, à part de ça, je pense qu'il faut parler quand même de la plus grosse étude randomisée contrôlée de lévothyroxine en hypothyroïdie subclinique en grossesse. Ça a fait le New England Journal of Medicine en 2017. C'est
Quand
une
même.
étude. Ben, 2017 en plus, c'était l'année
Ouais,
de son
grosse année
grosse
pour
année.
l'hypothyroïdie subclinique dans le New England.
Je viens de faire le lien, j'avais même pas remarqué. Donc, c'est une étude qui incluait quand même 677 femmes avec hypothyroïdie subclinique qui étaient dépistées au premier trimestre. Ici, c'était défini l'hypothyroïdie subclinique comme une TSH supérieure à 4 avec une T4 libre normale. La TSH médiane des patientes dans l'étude était de 4,5.
Oh, yo. Fait que la moitié des patientes avaient une TSH entre 4 et 4,5.
Voilà.
C'est niché, là.
C'est très niché.
OK.
Voilà. Puis dans le groupe traitement, on administrait de la lévothyroxine pour atteindre une cible de TSH entre 0,1 et 2,5. Donc,
0,1?
c'est agressif.
OK.
Ouais,
Ben, on l'a dit, il faut être agressif, là.
OK.
Puis dans l'autre groupe, en fait, on administrait un placebo. Puis en termes d'issue maternelle, on constatait aucune différence entre les groupes pour les naissances prématurées, pour les décollements prématurés du placenta, pour la prééclampsie, l'hypertension, le diabète gestationnel. Malheureusement, rien de bien positif pour les issues maternelles. Puis, en termes d'issue fœtale ou néonatale, on constatait aucune différence entre les groupes pour les avortements spontanés, les morts à la naissance, le score APGAR, les admissions aux soins intensifs néonataux, le poids, puis plein de complications médicales à la naissance, pour la durée d'hospitalisation à la naissance. Donc, même là, on ne semblait pas avoir de bénéfice à utiliser la lévothyroxine, malheureusement. Les auteurs ont même suivi les enfants pendant 5 ans après leur naissance en leur faisant passer des tests neuropsychologiques, puis on ne remarquait pas de différence entre les groupes en termes de développement neuro ou intellectuel. Là. Pour leur donner, là, suivre des enfants pendant 5 ans après la naissance
Non,
pour
ouais.
voir si l'hypothyroïdie subclinique avait des bénéfices neurodéveloppementaux, je pense que ça mérite qu'on lève notre chapeau. Puis tu sais, là, c'est sûr que pour certaines issues, je pense que ça mérite de souligner qu'il n'y avait pas nécessairement toujours beaucoup d'événements. Donc, c'était difficile de démontrer une différence entre les groupes, mais à tout le moins, il ne semble pas y avoir de gros bénéfices à traiter l'hypothyroïdie subclinique, même pendant la grossesse, là, du moins avec la science qui est disponible aujourd'hui.
Il y a encore quand même bon, au moins des études randomisées contrôlées en bonne et due forme, mais des grosses limites dans cette science-là, parce que tu l'as dit, le TSH médian à 4,5, bon, ça l'a rien donné, sauf que la patiente qui sort une TSH à 11, puis une T4 normale, donc en hypothyroïdie subclinique, clairement, a été peu représentée dans ces études-là, là.
Très clairement.
Puis dans les faits, est-ce qu'elle en tirait un bienfait différent? Ben, on l'ignore.
Clairement.
OK. Ben, on prend les petits bouts de science qu'on a, hein?
Regarde, quand il passe, on est content.
OK. Y avait-il d'autres choses qu'on voulait dire par rapport à l'hypothyroïdie liée à la grossesse? Bon, je sais qu'il y a quand même un peu de science sur le concept de traiter l'hypothyroïdie subclinique aussi chez la femme qui n'est pas encore enceinte et qui a des enjeux de fertilité, là. Il y a des études randomisées contrôlées, il y a des revues systématiques. Bon, dans le même genre, clairement, là, une science qui est très, très, très difficile à interprétée de façon définitive. Une des nombreuses petites études qui ont été faites qui semblent suggérer là, des résultats un peu incroyables là, avec quelque chose genre un NT à 3 pour une grossesse à terme. Là. Les autres, la plupart donnent rien. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Je pense que au final, encore une fois, dans une balance risque-bénéfice, c'est sûr, il faut toujours se rappeler ça, qu'on le veuille pas. On parle de lévothyroxine ici, un traitement qui est somme toute très bien toléré, si bien géré, qui est simple à utiliser, qui est pas dispendieux, qui est ci, qui est ça. Donc, dans une balance risque-bénéfice, je pense que avec la science disponible, je serais clairement pas choqué là, de voir quelqu'un initier un traitement de lévothyroxine chez une patiente en processus de fertilité avec une hypothyroïdie subclinique.
Un NNT à 3, c'est quand même impressionnant. Puis là, je sais qu'il y a des limites dans l'étude, là, mais
Dans sa fesse, sa fesse.
c'est quelque chose, là.
Bon, ça fait-tu le tour de la grossesse et de l'hypothyroïdie, là?
Autant
Parce que
que
oui.
faire se peut.
Parfait. En terminant, on voulait peut-être juste glisser un petit mot, là, mais c'est clairement pas notre pratique cible, là. C'est les patients qui présentent des cancers de la thyroïde. Puis sur la gestion, la cible de TSH chez ces patients-là, parce qu'il y a quand même une particularité. Fait que je ne veux pas m'étendre plus qu'il faut sur le sujet, mais quand même s'assurer que les gens soient familiers avec les nuances, parce que ben sinon ça peut mener à des surprises. Puis si on n'est pas au courant de ce qu'on est en train de faire, mais ben, j'imagine que ça peut mener à des ajustements inappropriés. Fait que l'idée, c'est pour des patients qui ont eu, idéalement, ou qui ont encore une maladie active, là, chez qui on n'a pas réussi à la contrôler, un cancer de la thyroïde. Puis on ne parle pas de tous les cancers de la thyroïde ici. On parle des cancers de la thyroïde non médullaires, là, parce que les cancers de la thyroïde médullaires, ils semblent pas avoir de. Ces cellules-là ne semblent pas avoir de récepteurs à la TSH, donc il n'y a pas d'enjeu. Mais pour les autres, il y a une idée d'essayer de supprimer la TSH pour limiter la stimulation des cellules cancéreuses par la dite TSH. Il y a, vous devinerez, pas de belles études randomisées, contrôlées, là, qui ont comparé différentes cibles de TSH ou de suppression de patente, là, puis qui a démontré des affaires incroyables, hein? Qui l'a cru? Il y a des études observationnelles, évidemment, sur le sujet, qui laisse croire que quand on dit supprimer la TSH, là, ça, il y a différentes intensités à ça, là. La ultime, c'est d'amener la TSH littéralement en bas de 0,1, là. Fait qu'on parle ici d'un contrôle très, 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 très agressif de la TSH. Il y a aussi une cible un peu moins agressive en 0,1 puis 0,5, mais bref, on parle de vraiment amener les TSH à des niveaux très bas, beaucoup plus bas que ce qu'on viserait normalement, certainement. Fait qu'il y a des données observationnelles qui suggèrent qu'on pourrait améliorer le devenir de ces patients-là, diminuer donc la récurrence de néo, puis ultimement, peut-être même, qui sait, là, la survie, puis ces affaires-là. Dans les mêmes types de données observationnelles, on a aussi des inquiétudes à faire ça. Hein. Oli t'en a parlé, là, il y a quand même des risques, il y a des choses documentées associées à une hyperthyroïdie iatrogénique, finalement. Fait qu'on parle, bon, tu l'as dit, le risque notamment d'arythmie, risque de fracture, puis ces affaires-là. Fait qu'on en est là. Au final, ce que les sociétés savantes semblent recommander, c'est d'évaluer le risque de la maladie néoplasique. Fait qu'on, il y a des systèmes pour classifier les patients à faible risque, risque modéré ou haut risque. Puis là, ben, en fonction du risque, il y a des recommandations qui vont suivre sur la cible de TSH, puis la durée de cette suppression de TSH-là. On ne sait pas exactement combien de temps on devrait supprimer la TSH, parce qu'évidemment, un patient qui répond bien à ses traitements contre la néoplasie, probablement qu'après un certain temps, ben, le risque de problèmes néoplasiques est diminué, puis probablement qu'on peut se mettre à cibler des TSH plus typiques, plus standards, mais tout ça est rempli d'incertitudes. Fait que perso, je pense que ce qui est important pour aujourd'hui, pour les soins de première ligne, c'est de savoir que c'est tout à fait attendu qu'il y ait des patients qui ont eu un néo de la thyroïde, pour qui on veut volontairement cibler des valeurs de TSH très, 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 très basses, puis donc clairement pas se mettre à désintensifier des traitements de lévothyroxine là, chez ces patients-là sans considérer l'ensemble de l'œuvre. S'il y en a qui ont vraiment de l'intérêt en oncologie, mon Dieu, vous écoutez pas le bon podcast, là. C'est pas mon univers. Et que c'est pas mon univers. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça avec l'hypothyroïdie. J'ai goût de vous dire, je suis désolé. Beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de sciences absentes. On peut pas l'inventer. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En espérant que ça aide. Je sais pas. Je reste sur ma faim. Mais bon. Promis la prochaine
On
fois.
n'invente pas de science.
Sur ce, petit message habituel, s'il y a des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, toujours écrire à Oli. Sinon, ben, on s'en parle bientôt.
Ciao,
Salut!
Bye là.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.